France Inter. Marion Lourd. Le téléphone sonne.
Allez, une devinette pour commencer. Qu'est-ce qui est petit, rectangulaire, rouge, qui pourrait disparaître d'ici les prochaines années et qui coûtera 1,43€ au 1er janvier prochain? Le timbre-poste, bien sûr. La Poste vient d'annoncer une nouvelle augmentation des prix pour ses timbres. Presque 12% de plus pour ce timbre rouge qui garantit la réception de la lettre à J+1. Alors c'est vrai qu'il faut bien compenser, le volume de courrier est en chute libre. L'an dernier, nous avons envoyé chacun 5 courriers seulement destinés à arriver le lendemain. Alors l'entreprise s'adapte, la Poste pousse ses tarifs, elle profite de l'augmentation du volume de colis, merci le commerce en ligne. Elle développe aussi des nouveaux services et elle va lancer un timbre différent pour un courrier acheminé en 3 jours. Le tout pour continuer à remplir ses missions de service public. Courrier universel, aménagement du territoire, distribution de la presse et compte bancaire pour tous. Ces changements sont-ils satisfaisants? Faut-il réfléchir à quelque chose de différent aujourd'hui et demain? À quoi sert la Poste? Question posée ce soir dans Le Téléphone Sonne, c'est votre émission. Bienvenue à tous.
Le Téléphone Sonne, 01 45 24 7000.
Et on commence cette émission avec Pascal. Bonsoir Pascal.
Bonsoir à tous.
Bienvenue sur France Inter.
Merci. Dans cet univers Internet dématérialisé, la Poste n'est-elle pas un lien social dans les petites et les moyennes communes?
Eh bien, merci pour votre question à France Inter, Pascal. Alors, pour vous répondre, nous sommes avec 3 invités qui sont à distance, mais qui sont bien là. Jean Launay, ancien député, auteur du rapport sur les mutations du service universel postal, récemment remis au ministre de l'Économie. Bonsoir.
Bonsoir.
Muriel Leroux, historienne, responsable de recherche de la recherche pour le comité pour l'histoire de la Poste. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir Patrick Molinos, maire de Vénarey-lès-Lôme et président de la commission départementale de présence postale territoriale en Côte d'Or.
Bonsoir.
Je précise que nous avons également sollicité la Poste et que personne n'était malheureusement disponible pour nous répondre. Alors peut-être sur la question de Pascal, je vais me tourner vers vous, Muriel Leroux. Est-ce que finalement la Poste, c'est le lien social par excellence?
La Poste, après avoir été une administration, est une entreprise qui aujourd'hui, effectivement, dans le cœur des Français et au quotidien, symbolise le lien social. Hein, qu'il s'agisse de la distribution du courrier, de la distribution de la presse sur laquelle on va revenir, mais aussi sur l'accessibilité bancaire pour les plus modestes d'entre nous, ou encore le fait d'avoir accès à tous ces services dans des zones géographiques périphérique à des distances limitées, tout cela contribue effectivement à faire de la Poste un lien particulier, et surtout si l'on ajoute à cela les images d'Épinal qui, de façon un peu classique pour les historiens, accompagnent les représentations que les Français font de cette entreprise.
Et ça ne s'est pas dégradé à travers le temps, d'après vos recherches à vous en tant qu'historienne?
Alors, l'attachement des Français à la Poste, non. En revanche, le lot de critiques, même quand tout va bien, est continu. Parce que, d'un point de vue culturel, si je puis dire, les Français considèrent comme acquises et immuables les missions de service public qui ont été attribuées à cette entreprise par la loi de 1990, quand on a mis fin justement à l'administration postale. Donc on a collectivement une image, une idée de la Poste qui est au service des Français, ce qui est tout à fait exact, car que ce soit de la Poste héritée de la loi de 1804 de Napoléon ou de celle héritée de la loi de 1990, dans tous les cas, le législateur surveille ses fonctions, ses missions de service public, afin que les usagers et les clients soient le plus satisfaits possible des services rendus et plus ou moins compensés par l'État pour opérer les missions dont elle a la délégation.
Patrick Molinos, vous en Côte d'Or, vous observez effectivement que cette fonction de lien social, elle garde toute son importance?
Elle garde très certainement toute son importance dans l'imaginaire et de manière symbolique, ça je partage. Elle a néanmoins sans doute souffert d'évolutions de l'organisation de l'entreprise. Mais en même temps, on ne peut pas vivre dans le fantasme d'un temps passé qui aurait été idéal. Enfin, il y a 30 ans, souvenez-vous de ce que les humoristes, comment les humoristes brocardaient la Poste. Donc, elle a été très bouleversée, mais elle a su s'adapter, beaucoup en lien et avec le soutien des maires de France dans les communes rurales. Il faut quand même...
Là, vous plaidez pour votre paroisse.
Non, mais parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a 17 000 points de contact. On appelle ça des points de contact maintenant.
Voilà, obligatoire. C'est un service public obligatoire.
Il n'y a plus que 44% de véritables bureaux de poste de plein exercice. Presque 39% sont des agences postales communales, c'est-à-dire des agences postales dans des communes cofinancées par la Poste, dans des communes rurales, des intercommunalités rurales ou des quartiers.
Et auxquels contribuent aussi les maires, donc.
Et auxquels contribuent les maires, bien sûr.
Mais vous, chez vos administrés, vous trouvez que ça correspond à un besoin réel de lien social encore, malgré Internet, malgré.
Il y a un besoin de service. De services publics. Maintenant, vous l'avez dit en introduction, on ne peut plus aujourd'hui, avec la chute réelle et complète du courrier papier traditionnel, fonctionner et regarder les choses de la même manière. C'est évident. Pour autant, la Poste est sans doute la seule entreprise en France à avoir un maillage et un réseau grâce aux postiers et aux postières de proximité. C'est la seule entreprise qui passe devant les habitations de 100% des Français 6 jours sur 7. Ça, c'est une force extraordinaire et son défi pour demain, c'est de se réinventer pour apporter de nouveaux services qui correspondent à notre temps. On peut brocarder ou se plaindre d'Internet et du numérique, il y a plein de raisons de le faire. Ça apporte aussi beaucoup à la société. La Poste a de nouveaux rôles à jouer. C'est, je crois, ce à quoi on doit réfléchir quand on est élu local, quand on est maire. Et c'est certainement ce à quoi réfléchit La Poste pour les 10 ans qui viennent.
Et c'est ce à quoi réfléchit aussi Jean Launay, le rédacteur du rapport Les Mutations du Service Universel Postal. Jean Launay, la fonction de lien social, c'est quelque chose que vous aviez en tête aussi en rédigeant votre rapport que vous avez rendu récemment au ministre de l'Économie ?
Oui, tout à fait. Moi, je voudrais prolonger la réponse à Pascal. Le lien social, il n'est pas seulement attendu dans les petites communes, mais partout. Je voulais rappeler aussi que dans les 4 missions de service universel que vous avez vous-même présentées en introduction, il y a la mission d'accessibilité bancaire et que pour le service des minima sociaux, la Poste est en place pour servir plus de la moitié des ayants droit dans notre pays. Donc, et c'est aussi et beaucoup en ville qu'il se trouve. Donc ce lien social, il est sur l'ensemble du territoire national, pas seulement sur les petites communes. Il est indispensable de le maintenir. Je crois que les Français reconnaissent aux facteurs ce rôle, cette présence, ce qu'on appelle la responsabilité d'être tiers de confiance. Le facteur est attendu. Et donc je pense que dans l'avenir, et la Poste y travaille dans la diversification de ses activités, c'est de voir comment on peut remplir une sacoche différemment. S'il y a moins de courriers, il y a peut-être plus de colis, mais aussi peut-être plus de services, en tout état de cause.
Et peut-être moins de facteurs.
Écoute, oui, depuis une dizaine d'années, il y a moins de facteurs parce que les tournées se contractent, elles sont plus longues, ce qui fait une pression sur le personnel et qui est réel et dont les dirigeants de la Poste ont pleinement conscience. Mais cette complémentarité de l'humain avec le numérique, il est indispensable de la maintenir. Et je pense que c'est important quand on mesure la part de ce que j'appelle l'électronisme, c'est-à-dire les difficultés de certains publics à accéder aux services en ligne et au numérique, d'avoir quelqu'un qui soit capable et reconnu tiers de confiance pour pouvoir accompagner dans ses missions les populations les plus en difficulté.
Et, ben
et la Poste joue ce rôle.
Justement, on va en parler avec Christiane du numérique. Bonsoir Christiane.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Merci.
Alors vous avez plutôt un témoignage en fait.
C'est-à-dire, voilà, je suis électro-hypersensible, donc je n'ai pas d'internet. Donc pour moi, la Poste c'est quelque chose d'essentiel parce que je ne peux avoir des informations que sur papier. Et ça me permet aussi de pouvoir échanger des infos avec d'autres HS, parce que je fais partie de Robin des Toits, donc on a beaucoup de...
Une association environnementale. Hein.
Voilà, environnementale, et on a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel pour nous tous. Donc, ça permet effectivement d'être lié, de pouvoir échanger des infos quand on veut pas que ça soit par le téléphone aussi. Enfin bon, c'est vraiment... Bon, le seul petit bémol, c'est qu'il y a plus d'annuaire sur papier disponible. Et ça, c'est vrai que je viens de déménager il y a 2 ans. Et pour moi, ça a été un vrai cauchemar parce que je ne connaissais personne. Je ne pouvais pas appeler d'artisans pour m'installer, etc. Parce que, on a réussi à me trouver un annuaire de 2019 en me disant, il faut bien le garder, il n'y en aura plus. Donc, voilà. S'il y a des nouvelles personnes qui s'installent, des artisans ou n'importe, je ne serai pas informée. Donc, ça, c'est le petit bémol.
Et autrement. En dehors de ça, de cet annuaire, Christiane, vous en êtes contente du service qui est rendu par la poste, du courrier?
Moi, j'en suis tout à fait contente, vraiment. Et puis, le plaisir d'attendre le facteur, de chercher la lettre, on voit l'écriture de quelqu'un, on ouvre avec plaisir. Il y a quelque chose de plus vivant, il me semble, vous parliez de sociabilité, effectivement, je trouve que c'est quelque chose de plus humain. Donc, je trouve que la poste, c'est essentiel, comme vous disiez vos interlocuteurs, évidemment, dans les campagnes et tout. Mais bon, je suis dans une petite ville, mais je trouve que pour moi, c'est vraiment le plaisir d'aller poster... les lettres, de savoir que le courrier va être pris. Alors bon, des fois on me dit un petit téléphone, ça y est, j'ai bien reçu ta lettre, c'était formidable, etc. Enfin bon, on peut s'épancher, il y a quelque chose,
Merci Christiane. Merci pour votre appel. Muriel Leroux, des gens comme Christiane qui utilisent encore uniquement le courrier, il y en a plus beaucoup aujourd'hui. Le courrier, il a quand même drastiquement diminué avec l'apparition d'Internet, non ?
Alors, vous l'avez spécifié au début de votre émission, effectivement, l'année dernière, une famille française moyenne a au plus envoyé 5 courriers papier. Dans le même temps...
J+1, c'est-à-dire du courrier urgent, quoi.
Oui, à J+1, oui, bien sûr. Dans le même temps, pour revenir au témoignage de l'auditrice de l'instant, la Poste mutualise hein, quand même de longue date ses services et je pense notamment à un clin d'œil sur la diversification que l'entreprise peut opérer. Dans les années 30, la Poste Automobile Rurale transportait des passagers qui étaient loin du chemin de fer. Donc voilà, ça c'est une forme dans un temps long de recours à la Poste, mais plus proche de nous, la Poste est tout à fait sérieusement cette fois-ci, la Poste est partenaire de l'ouverture d'un certain nombre de maisons de services au public où on retrouve l'essentiel des services publics rassemblés, où les postiers peuvent jouer et sont formés pour jouer le rôle d'aide ou de conseiller pour un certain nombre de démarches administratives. Et comme le disait l'un des deux autres intervenants, ces maisons de services au public ne sont pas spécifiques aux zones rurales, mais sont aussi développés dans les zones urbaines et notamment dans les zones urbaines, par exemple, de Seine-Saint-Denis, où on a besoin d'avoir un soutien continu pour l'accès à la chose publique. Et dans ce cas précis, les postes sont partenaires. Alors, je n'ai pas exactement le nombre de maisons de services publics qui a été ouverte au cours des 5-10 dernières années, mais c'est un projet qui n'a pas attendu ni l'attrition du courrier, ni la crise sanitaire. Il me semble que dans le cadre de la mission de service public qui a été imposée par le législateur par la loi de 1990, cet aménagement du territoire et cette desserte auprès des habitants de ce pays est une mission qui explique que malgré les griefs que l'on peut avoir contre l'entreprise, il y a aussi un attachement, comme Christiane vient de de le rappeler.
Jean Launay, pour continuer à avoir un bon service public du courrier comme celui que Christiane saluait hein, dans son témoignage, est-ce que la solution c'est vraiment de ralentir la distribution du courrier, ce qui fait partie des projets, puisqu'on va avoir un timbre où le courrier est distribué à J+3, ou est-ce qu'il faut supprimer un jour de distribution du courrier? En fait, qu'est-ce que vous préconisiez? J'ajoute la question de Jocelyne hein, qui a écrit à France Inter, qui dit « Chez moi, le courrier n'est plus distribué le samedi ». Donc ça existe peut-être déjà dans certains endroits.
Alors le sujet est très complexe parce que il faut regarder à la fois l'organisation des tournées des facteurs et aussi la réalité de ce qui est mis dans les boîtes aux lettres par les Français. Vous avez déjà cité les volumes de courrier qui ont été divisés par deux depuis les dix dernières
presque
années.
Presque par deux, oui, 40% de moins.
Voilà, et qui fait que la sacoche est moins remplie en courrier. Et les projections que l'on fait pour les années qui viennent montrent, mais vous l'avez déjà dit, que la consommation du courrier urgent en J+1 avait été globalement divisée par 5 depuis 10 ans, par 9 pour les ménages, et qu'à l'horizon 2025, il n'y aurait plus que le courrier J+1 ne représenterait plus que 3% des volumes du courrier, et que chaque ménage n'enverra plus que 2 courriers en J+1 par an. Donc, moi, j'ai vu pendant la mission qui m'a été confiée, avec toutes les rencontres que j'ai pu faire, que déjà dans la pratique, les Français utilisent beaucoup plus le timbre vert courant que le timbre urgent, lequel est remplacé.
Le timbre vert, c'est J+2. Hein.
C'est le J+2, c'est
voilà.
Ça. Le timbre rouge, à J+1, étant déjà largement remplacé par la généralisation de l'interactivité via les mails, les applications, les réseaux sociaux.
Il faut dire qu'il est cher aussi quand même, il commence à être un peu cher le timbre.
Voilà, il commence à être un peu cher et vous avez dit, il va passer de 1,16€ à 1,43€
me semble-t-il. Oui.
Voilà, donc il est clair que ce régime du J+1 et cette obligation de distribuer à J+1 pèse dans le trafic industriel de la Poste. Et cette réforme du J+1 qui va être étudiée avec les services de l'État, parce que, rappelons-le, la Poste, c'est une entreprise à des capitaux entièrement publics, via l'État à un tiers, à hauteur d'un tiers, et par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de deux tiers. Mmh. Et donc ces tarifs font l'objet de négociations d'une part, mais là aussi, il va y avoir sur le J+1 une négociation pour transformer ce timbre urgent, et ça va certainement générer des économies dans le traitement industriel du courrier, dans la suppression de certaines lignes d'avions, etc.
Donc, mais ça, vous dites finalement, c'est peut-être une bonne piste d'économie. En revanche, vous ne proposez pas le courrier 5 jours sur 7, comme il peut y avoir dans d'autres pays, par exemple.
Non, justement, parce que le 6 jours sur 7 est une spécificité française, et je crois qu'il est bon de la conserver. Parce que, et pour répondre à Christiane, je crois que son attente et son expression montrent bien qu'il y a une part de tradition que les Français entendent voir respectée. Ça ne doit pas empêcher la modernité. La responsabilité de l'entreprise et de ses dirigeants, c'est de maintenir cet équilibre entre les deux. La Poste, elle n'est pas qu'une image d'Épinal. Elle est en concurrence dans le colis, dans la logistique, et ça a amené dans le plan stratégique qui vient de s'achever, dans la période de 2010-2021, une diversification ainsi que des acquisitions à l'international. Et pour pouvoir maintenir ces missions de service public toutes en déficit, il faut aussi permettre à l'entreprise, puisqu'elle a l'obligation de les mener, ces missions de service public, il faut aussi lui permettre de tenir son rôle dans un régime concurrentiel
et donc
de lui laisser les moyens.
Voilà. Et d'avoir les moyens.
Par des économies.
Maggie a appelé France Inter. Maggie nous appelle de Franche-Comté. Bonsoir Maggie.
Oui, bonsoir.
Vous, c'est un coup de gueule que vous voulez pousser.
Je vais vous dire, j'ai 72 ans et durant toutes ces années, je n'ai eu qu'un seul courrier égaré par la Poste. C'est très peu. Hein.
Et en effet.
Ce courrier est à l'origine du litige que j'ai avec mon opérateur téléphonique. Et cet opérateur téléphonique m'envoie des documents Alors, certains sont distribués par la poste. Donc là, le cachet sur l'enveloppe, hein, j'ai la date, c'est mentionné Ecopli, et j'ai la date d'envoi. Mais d'autres me sont envoyés par, je ne sais pas quoi, ça s'appelle distribué par Adrexo. Il n'y a pas de date, il n'y a rien du tout. Or, moi, j'ai besoin du cachet de la poste, enfin d'un cachet, qui atteste de la date d'envoi de ces documents. Je ne veux pas... La date qui est mentionnée à l'intérieur sur le courrier, c'est une chose. Souvent, ça ne correspond pas à la date d'envoi. Mmh. Et donc, je suis très en colère parce que depuis plus d'un an, je suis en litige avec mon opérateur téléphonique pour des dysfonctionnements de ce genre. Mmh. Donc, si la Poste mutualise des moyens, très bien, je ne suis pas contre, mais je demande que les personnes avec lesquelles elle s'entend, les organismes, au moins affranchissent les courriers comme le fait la Poste. Mmh. Ça serait la moindre des choses.
Merci.
Voilà mon coup de gueule.
Merci Maggie pour ce coup de gueule. Alors, je ne sais pas vers qui me tourner, peut-être Muriel Leroux, qu'est-ce que c'est Adrexo? On va peut-être expliquer, c'est notamment ceux qui ont eu aussi des ratés dans la distribution de la propagande électorale récemment pour les élections départementales et régionales. C'est des sous-traitants de la Poste, voilà. En réalité?
Oui, absolument. Alors, c'est la question de fond, et je rejoins les propos que tenait à l'instant Monsieur Launay. La Poste est prise depuis de nombreuses années dans une tension qui est de répondre à la concurrence, puisque l'essentiel, 99%, enfin 100% aujourd'hui de son activité s'exerce sur des marchés en concurrence, et elle doit dans le même temps faire face à l'attrition du courrier et dans le même temps remplir ses missions de service public. Donc il y a le législateur en 90 à imaginer quelque chose qui fonctionne quand même assez bien, il faut le dire, la compensation autorisée par Bruxelles de ses missions de service public par l'État qui compense alors quelques années très bien, quelques années moins bien.
Bon là ça va être 500 millions d'euros par an pour le courrier.
Voilà, là ça a été négocié, Bruxelles va valider parce que ça semble être une enveloppe tout à fait raisonnable. Mais dans le même temps, la concurrence étant là, le recours aux sous-traitants est réel. Alors dans le cas,
ça c'est autorisé, c'est complètement légal.
C'est autorisé, c'est complètement légal. Dans le cas de la distribution de la propagande électorale, c'était au grand dam de la Poste qui a perdu l'exclusivité de cette distribution, mais la concurrence est là, elle a joué. Les Français ont pu mesurer par défaut la qualité du service public rendu sur des marchés concurrentiels, donc ça...
Le courrier, c'est un métier.
Comme quoi distribuer le courrier, c'est un métier, c'est surtout une activité industrielle, parce que le point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on envoie une lettre, qu'on en envoie 50 ou qu'on en envoie 500, l'outil industriel qu'on met en œuvre est le même. Et donc ça, on l'oublie quand même un peu facilement, de même que pour le transport des colis. Donc la Poste a fait par le passé de grands efforts, de gros efforts de modernisation de l'outil industriel au tournant des années 2000, à un moment où personne ne savait exactement si l'attrition du courrier allait être d'ampleur ou pas. Donc ces cathédrales de tri de courrier pour respecter la mission de service public J+1 existent, mais elles ont un coût de fonctionnement. Donc, lorsqu'on dit que la Poste doit respecter les missions de service public, oui, mais l'outil industriel qui a été pensé à la fin des années 90, mis en œuvre dans le courant des années 2000, doit quand même atteindre un niveau d'efficacité en transportant un nombre de courriers élevé. Donc, que fait-on? On pense de nouveaux systèmes. Et là, je voudrais revenir encore quelques années en arrière pour évoquer le rôle d'acculturation de l'entreprise. On évoque le J+2, la lettre avec le timbre vert. Mmh. Mais c'est aussi un choix stratégique qui a été pris dans les années 2000, dans la deuxième partie des années 2000, quand on a décidé de devenir un pays où l'écologie devait répondre à la demande du citoyen. Or, les postiers de cette époque ont commencé à réfléchir à une écologie du transport de la lettre. Et en fait, c'est la lettre verte qui est plus lente. Et là, c'est une acculturation des Français qui doivent imaginer que le coût de la rapidité du transport de la lettre est polluant et qu'une lettre
J+2, J+3, allant plus lentement et n'utilisant plus, par exemple, le recours à l'aérien, est plus lente mais moins polluante. Et ce travail a été mené par la Poste au mi-temps des années 2000, amorcé. Et aujourd'hui, je pense que les Français sont prêts. Donc, cette fonction d'acculturation d'une entreprise publique à penser le temps et le rapport au temps de façon différenciée, c'est aussi à mettre à l'apanage de cette entreprise qui, pour la maîtrise du temps de façon récente, mais aussi dans l'acculturation de l'usage des produits financiers, Caisse Nationale d'Épargne, comptes courants postaux, puis introduction des cartes à bande magnétique et à puces, ont permis aux Français de basculer d'une épargne en espèces sonnantes et trébuchantes, en monnaie scripturale et en utilisation de moyens dématérialisés. Donc cette entreprise assume aussi ses fonctions d'acculturation.
De changement d'époque en quelque sorte. Christophe nous appelle de Paris. Bonsoir Christophe.
Ah bonsoir tout le monde.
Bienvenue sur France Inter.
C'est sympa.
Eh ben bienvenue, c'est à vous.
Oui, donc j'aime beaucoup la Poste et je lui fais un certain nombre de reproches. Je disais justement tout
à l'heure.
Qui aime
bien châtie bien, Christophe.
Comment dites-vous ?
Qui aime bien châtie bien.
Alors justement, j'habite Paris depuis une cinquantaine d'années. Autrefois, j'habitais la province. Mais pour nous, dans ma famille, le facteur était un peu un copain. Enfin, pas tout à fait un copain, mais il était toujours le bienvenu. On lui offrait un jus de fruits s'il en voulait, un peu d'eau. Si la veille, il y avait un anniversaire, on lui offrait un verre de champagne s'il en restait. Voilà. Et puis, à Paris, maintenant, depuis une cinquantaine d'années, les choses ont beaucoup changé. D'une distribution, on est passé à 3, et maintenant c'est soit une, soit aucune, soit ceci, soit cela. C'est devenu un peu aléatoire, voyez-vous. Et je disais tout à l'heure à la personne à qui j'ai parlé, que vous avez justement à la Poste engagé des gens qui ne sont pas toujours lettrés. Ils ne connaissent pas l'alphabet, ils ne connaissent pas les chiffres.
Il m'est arrivé. Mais vous allez un peu loin peut-être, Christophe. Ils savent lire quand même nos facteurs.
Ben, les facteurs, il faut quand même qu'ils sachent lire. J'ai reçu du courrier des voisins et les voisins ont reçu du courrier pour moi. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a un an peut-être, 10 jours, pas de courrier du tout. Et pour cause, notre courrier avait été mis dans la boîte à lettres de quelqu'un qui était en vacances. Vous comprenez? Et il n'y a pas longtemps aussi, il y avait un petit jeune homme, donc là, à l'entrée de l'immeuble, qui cherchait désespérément un nom de destinataire, mais c'était pas au 28, c'était au 28 bis. Il ne voyait pas la différence. Vous comprenez? Donc, les postiers, les facteurs ne sont pas de nos jours forcément formés.
Bon, ce que vous dites, Christophe, c'est qu'il y a un petit problème de qualité. En tout cas, merci pour votre témoignage. Alors, Patrick Molinos, vous, est-ce qu'en Côte d'Or, vous observez aussi qu'il peut y avoir des ratés dans le service rendu par la Poste et un petit problème de qualité aussi?
Je pense pas qu'on puisse dire ça de manière généralisée. Après, je ne connais pas d'organisation ou de fonctionnement, qui soit d'ailleurs individuel ou collectif, où de temps en temps, il n'y ait pas d'erreur. Ce que dit monsieur peut être est tout à fait juste s'il l'a vécu.
Je vous rajoute quelques témoignages qu'on a reçus, hein, parce que pour dire qu'il y a effectivement beaucoup, après, effectivement, qui aiment bien châtie bien, mais il y a beaucoup d'usagers qui se plaignent, puisqu'on a eu aussi Serge qui nous a écrit en disant « Les prestations se sont considérablement dégradées, courrier perdu récurrent pour ma part, sans parler des suivis de courriers non réalisés. » Catherine qui écrit aussi à France Inter « Il ne faudrait pas oublier l'attitude inacceptable de la Poste durant le premier confinement, fermeture de bureaux, distributeurs non alimentés. » Voilà, donc il y a quand même des plaintes sur la qualité du service rendu.
Oui, la remarque sur le premier confinement est tout à fait justifiée. On s'était d'ailleurs beaucoup mobilisé pour que les bureaux de poste réouvrent très rapidement et suffisamment pour que la Poste assume sa mission, notamment de distribution des prestations sociales. Donc oui, il y a des ratés, oui, il y a des dysfonctionnements de temps en temps. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une généralité. Mais pour que la qualité soit maintenue, là je vais rebondir à la fois sur la remarque de Jean Launay et sur celle de Christiane tout à l'heure, qui a eu un mot que j'ai trouvé particulièrement juste. Elle a dit « la Poste c'est plus humain ». Oui, la Poste c'est plus humain, à condition que la Poste garde des postiers. Et je l'ai dit en introduction tout à l'heure, la force de cette entreprise, c'est d'avoir des postiers, des agents, qui chaque jour passent devant toutes les habitations de tous les Français. Et ça, c'est la seule entreprise de France qui peut faire ça.
Alors, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ?
C'est encore le cas aujourd'hui. L'affaire Adrexo, évoquée par la dame de Franche-Comté, de Bourgogne-Franche-Comté, est assez pitoyable et je la comprends. Et ce qui s'est passé avec Adrexo aussi sur la distribution de la propagande électorale est aussi le plus grand scandale de l'histoire démocratique de ce pays. Ça n'est jamais arrivé dans le passé qu'on ne sache pas distribuer la propagande électorale à la veille d'une élection. La Poste, là où elle l'a fait, puisqu'elle l'a fait sur une partie du pays, puisque le gouvernement avait choisi de mettre en concurrence la distribution, bon, je pense que c'est une vraie mission de service public, la distribution de la propagande électorale, mais bon, il y a eu une...
Ça fait pas partie des missions qui sont données à la Poste, en tout
non,
cas, c'est ça.
Non, mais là. Ça devrait. Enfin, là, maintenant, on devrait en tirer une conclusion, c'est qu'on ne peut pas prendre le risque que la propagande électorale, premier acte essentiel pour permettre à nos concitoyens d'aller voter, on ne peut pas se permettre un raté tel que celui qui a eu lieu. Et il n'y a pas eu de raté, là, pour l'essentiel, là où la Poste a distribué. Parce que les postiers savent distribuer, parce qu'ils savent faire de l'adressage. L'entreprise qui a été choisie dans les autres, ou les entreprises qui ont été choisies dans les autres régions, mais celle citée par Madame tout à l'heure, a œuvré en Bourgogne-Franche-Comté, elle fait pas de l'adressage. Elle emploie des intérimaires, des retraités, des étudiants, pour faire de la distribution de pubs dans les boîtes aux lettres. Et distribuer de la publicité dans les boîtes aux lettres, pardon, ça n'est pas le métier de distribuer des plis adressés à des personnes identifiées dans chaque appartement et dans chaque maison de ce pays. Et ça, seule la Poste, aujourd'hui, sait le faire. Et la Poste continuera à savoir le faire si elle garde son architecture et son armature de postier et de postière. Il faut faire attention à ne pas arriver, à ne pas basculer dans un système où j'ai la personne, l'historienne, pardon madame, j'ai oublié votre
Muriel
nom.
Leroux.
Madame Leroux, vous évoquiez, c'est essentiel, la mutation de l'outil industriel, l'importance de l'outil industriel, mais derrière l'outil industriel, l'automatisation qu'on connaît aujourd'hui, du tri, etc., il faut qu'il y ait des femmes et des hommes.
Et il y a eu 47 000 sinon... postes en moins en 8 ans, c'est ce que dit Force Ouvrière, en tout cas, le syndicat.
Oui, c'est sans doute le cas. Et à un moment donné, on va atteindre un plancher en deçà duquel les différents services publics ne pourront plus être assumés correctement. Donc, il faut y prendre garde. Je pense que la Poste, aujourd'hui, en a pleinement conscience et que le président Valls y est attentif. Les syndicats, tout particulièrement aussi, et les élus locaux, les élus de grandes villes comme des petites communes de France et moyennes, également parce que les missions de service public sont essentielles à l'activité de la Poste. On peut penser du bien ou du mal de l'ouverture à la concurrence, je n'en pense pas toujours du bien, mais c'est un fait avec lequel il faut composer aujourd'hui, mais on ne doit rien céder sur les missions de service public, d'aménagement du territoire, d'accessibilité bancaire, de distribution de la PQR, la presse quotidienne régionale, la presse quotidienne doit arriver dans les foyers si elle n'est pas distribuée correctement. C'est un manque à gagner et une difficulté en une période où on voit bien que voilà, Internet et l'information continue n'ont pas que des vertus et la lecture et l'importance de la presse quotidienne régionale doit être défendue. Quant au service universel de distribution, on en parle depuis le début de l'émission, évidemment il doit continuer selon des modalités adaptées aux nouvelles pratiques. Personne ne peut nier qu'on utilise le mail pour l'essentiel, pour la plupart de nos concitoyens, beaucoup plus que le courrier écrit. Mais il faut aussi penser à ceux, comme Madame tout à l'heure, qui, par choix ou par obligation de santé, ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser le numérique. Le numérique, c'est très bien si c'est choisi et si on sait le faire, pas si c'est imposé. Il faut pour cela que la Poste garde ses missions essentielles. Et moi, je pense, d'ailleurs Jean Launay l'a évoqué, peut-être qu'on en parlera, une des missions possibles pour l'avenir, c'est de créer un cinquième service public autour de l'accompagnement aux nouveaux outils numériques, parce que on parle d'électronisme, l'INSEE évoque 16% des Français atteints d'électronisme, mais en réalité, des gens qui ont des difficultés avec les outils numériques, c'est parfois la moitié de la population. On peut être très à l'aise avec certains outils et ne pas utiliser correctement les outils essentiels. Déclaration d'impôts, accès aux services publics de base, permis de conduire, réclamation aux caisses d'allocation familiale, la dématérialisation et le numérique à marche forcée, qui oublie les gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas l'utiliser, serait dramatique. Et donc, un service public d'accompagnement à l'inclusion numérique, l'accompagnement...
Mais ça fait partie des préconisations de Jean Launay.
Oui, hein. Tout à fait. Et que je, personnellement, que je soutiens en tant que vice-président de région en Bourgogne-Franche-Comté, c'est aussi un de nos chevaux de bataille, que de pouvoir accompagner tous nos concitoyens dans la bonne utilisation du numérique, ou accepter qu'ils puissent refuser l'utilisation du numérique et donc leur proposer une solution alternative. C'est essentiel. Et la Poste peut jouer un rôle majeur dans cette histoire à écrire.
On va retourner au Standard de France Inter où Philippe nous appelle du Val-de-Marne. Bonsoir Philippe.
Oui.
Bienvenue sur France Inter.
Bonsoir. Oui, je suis là.
Alors allez-y, posez votre question.
Oui, je reviens un petit peu à quelques 20 ou 30 minutes en avant sur la question... client ou usager. Si la Poste est un service marchand, elle a des clients. Si c'est un service public, elle a des usagers. Moi, en tant qu'usager, avec mes impôts, je participe au financement des fonctionnaires. Je suis un usager, je ne suis pas un client. Donc, faut nommer les choses correctement. Mmh. Voilà.
Ben merci pour votre question ou pour votre point de vue, Philippe. Jean Launay, la question de Philippe, elle est un peu plus large que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, vous préconisez le développement de nouvelles activités pour la Poste. La Poste elle-même a développé des nouveaux services comme la visite aux personnes âgées, etc., qui sont des services payants. Donc c'est plutôt le fait d'une entreprise. Et en même temps, il y a les usagers à qui il faut assurer un service public de qualité. Tout ça en ayant en même temps des suppressions de postes dont parlait tout à l'heure Patrick Molinos. C'est un peu la quadrature du cercle, ça, non ?
Exactement, c'est le mot que j'allais employer. Mais finalement, la distinction client et usager, elle renvoie aussi au distinguo tradition-modernité que j'avais fait tout à l'heure. Quand Philippe se réclame usager, et évidemment ils sont encore nombreux, ces usagers, sur notre territoire, ils justifient à tout le moins le fait que l'État ait pris la décision dans une réunion qui s'est déroulée jeudi 22 juillet dernier, présidée par le Premier ministre, de compenser une partie des déficits de la mission du service universel postal à hauteur de 500 millions d'euros.
Donc, voilà, 500 millions d'euros, sachant qu'il y a eu 1,3 milliard de déficit l'an dernier, donc on ne compense pas l'intégralité quand même.
Pas l'intégralité, non, mais Bruxelles doit donner son avis aussi. Mais le reste, ça fait partie de ces efforts de productivité qui sont demandés à l'État, à l'entreprise, et que l'entreprise fait de façon récurrente avec... des réorganisations et qui mettent des pressions sur les facteurs, et le président Val reconnaît
Philippe
que
Val, le patron de la Poste, hein, oui.
Pardon, le Philippe Val, Philippe Val reconnaît que ces postiers sont soumis à cette pression dans les organisations des différents métiers et les facteurs sur le terrain en particulier. Mais l'usager, finalement, à part cette dotation de l'État à la Poste pour compenser le coût des missions de services publics qui sont toutes déficitaires, finalement, il joue son rôle de contribuable. Alors, par ailleurs, le client peut être demain aussi usager, parce que je pense que la Poste peut, avec les autres opérateurs, avoir des rapports plus pointus. Disons que les autres opérateurs peuvent utiliser les autres opérateurs peuvent utiliser le réseau postal pour remplir leurs missions, dont certaines sont des missions de service public. Et c'est là qu'on essaye de définir le contour d'une cinquième mission de service public. Reconnaître que c'est la Poste, par son implantation sur le territoire, sous différentes formes, mais qui est, avec les mairies, le service public le plus présent et le plus disponible, le plus reconnu par les Français. Donc j'avais déjà, en 2015, proposé l'implantation de maisons de service au public dans les bureaux de poste. Il y en a 500 qui ont été labellisées à l'époque. Et aujourd'hui, c'est la transformation décidée par l'État de ces maisons de service au public dans des maisons France Service qui amène la possibilité d'avoir dans des bureaux de poste, ou dans des mairies, ou dans des sièges d'intercommunalité, la transversalité de tout ce qui est maison, mission de service public.
Jean Launay, je voulais vous demander quand même, pardon, mais les nouvelles activités que la Poste a lancées et que vous encouragez également dans votre rapport, ça marche vraiment? Je veux dire, les visites à domicile des personnes âgées, les choses comme ça?
Oui, même... ça marche, mais les résultats en termes financiers restent marginaux et ne sont pas à la hauteur des pertes qui existent sur les missions de service public. Donc on est sur des périodes de transformation qui sont longues. La Poste vient de développer, de présenter son nouveau plan stratégique à l'horizon de 2030 pour les 10 années qui viennent. Et c'est dans ce cadre-là qu'en associant sa direction grand public et la direction du numérique, elle va pouvoir proposer une présence plus forte en termes de services, qu'ils soient en direction des usagers ou en direction des clients. Je crois que ces modalités de transformation qui sont à horizon de 10 ans, ils vont se dérouler au fil de ces 10 années de façon progressive, mais ce n'est qu'avec le temps qu'on réussira à intégrer ces nouvelles missions et à compenser finalement les pertes qui sont maintenant irrémédiables. Il n'y aura pas de retournement du service universel postal. On ne retrouvera pas les chiffres d'activité.
Alors, je vous arrête ici, Jean Launay, parce que je voudrais entendre très vite Muriel Leroux, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, Muriel Leroux. Mais effectivement, est-ce que la Poste, ça va devenir complètement une entreprise ou est-ce que ça va rester un service public? Vous avez 30 secondes.
30 secondes. Alors, ça restera une entreprise avec des délégations des missions de service public accordées par le législateur et surveillé par le législateur, tant que la demande des citoyens et des habitants de ce pays le souhaiteront. Car la demande est forte et la représentation à l'Assemblée nationale et au Sénat la confirme. Je voulais juste revenir sur au début de la crise sanitaire. Alors, pour livrer aux auditeurs de France Inter une réflexion, la Poste est la première entreprise en termes d'emploi des femmes à tous les niveaux. Et au moment de la fermeture des écoles, les postières qui sont également des mères de famille ont dû assumer 3 journées. Et si davantage d'entreprises mettaient en avant le fait que les femmes sont employées et qu'elles ont plusieurs journées dans une journée, on comprendrait que pour la première fois de son histoire, la Poste a été désorganisée, mais parce qu'elle est pionnière en matière d'accord de responsabilité aux femmes.
On va terminer là-dessus. Merci à tous les trois de nous avoir répondu sur France Inter. Merci également à ceux et celles qui ont préparé cette émission, Adèle Domas, Pierre de Certaines et Zoé Fauché. Merci aussi à la technique, à Loïc Frapsos et Ludovic Asselot. Et un coup de chapeau aux standardistes de France Inter.